Bonjour. Bon? Félicitations, vous avez gagné un iPhone. Vous avez bien fait de venir. Vous ne me croyez pas? C'est pourtant vrai. Donnez-moi votre numéro de carte bleue afin que je vérifie votre identité et le téléphone est à vous. Alors bon, des emails et des pop-up comme ça sur le web, il y en a des tonnes. Ils nous annoncent des cadeaux miraculeux et qui finalement ne sont que des pièges de pirates dont la seule chose que nous allons gagner, c'est au mieux un virus, sinon pire, un prélèvement bancaire. Le cadeau de Jésus-Christ peut étonner tout autant, mais je vous l'assure, il n'a rien d'une arnaque. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains. Alors, l'Épître aux Romains, c'est un texte du Nouveau Testament. Il s'agit de la lettre de l'apôtre Paul adressée aux récentes églises chrétiennes de Rome. Nous lirons dans le chapitre 3 de cette lettre, ce sera du verset 21 à 31. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, des exemplaires sont à votre disposition sur le présentoir à l'entrée de l'église. Et si vous n'en avez pas non plus chez vous, n'oubliez pas de ne pas reposer l'exemplaire en partant, il est à vous. Pendant que nous ouvrons le livre de Romains, voici quelques précisions sur cette lettre. Alors, comme je le disais, cette lettre de Paul est adressée aux églises de Rome. Bien que Paul a le vif désir de venir voir les chrétiens de Rome, il n'a pas encore pu le faire. D'où la lettre. Jusqu'au XIXe siècle, il était communément admis que la lettre aux Romains était à vocation universelle, une sorte de récapitulatif de tout l'enseignement de Paul. Depuis, les commentateurs de ce texte s'accordent de plus en plus à dire qu'il s'agit avant tout d'un écrit de circonstance, c'est-à-dire comme pour les autres lettres. Il semblerait que cette lettre veuille répondre à un problème dans l'église de Rome. Paul tenterait de répondre aux tensions entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne, non juive, si vous préférez. Ce point de tension est visible dans notre passage. Donc nous lisons donc Romains 3, verset 31. 21-31. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas le principe du mérite, mais celui de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr qu'il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi, mais aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. Alors c'est du Paul, c'est dense. Mais on va passer 20 minutes ensemble. Ne vous inquiétez pas, on va avoir le temps de voir tout ça. Dans ce texte, six idées sont présentes et s'entremêlent. Je les synthétise ainsi. Dieu est juste et juge. Il est celui qui déclare l'homme juste. Dieu donne gratuitement. Tous sont péchés face à la loi de Dieu. La foi seule en Jésus-Christ. le sacrifice de Jésus expie les péchés. Et tous égaux, tous dépendants du même Dieu, du même don, des mêmes règles. À l'écran, voici notre texte. Alors, vous ne voyez pas grand-chose, si ce n'est les couleurs. Ça tombe bien, c'est juste les couleurs que je voulais vous montrer. Les couleurs représentent les idées que j'ai pu relever lors de l'étude du texte. Ce qu'on peut remarquer, c'est combien ces idées se répondent les unes aux autres. Les argumentaires de Paul sont denses et celui-ci ne déroge pas à la règle. Devant la densité de l'enseignement de ce texte, j'ai organisé cette prédication selon trois parties qui s'organisent aussi selon les six idées relevées. Dans la première partie, nous verrons la volonté de Dieu d'être juste et le problème du péché vis-à-vis de cette justice. Dans la seconde partie, nous verrons comment le sacrifice de Jésus-Christ vient résoudre le problème. Nous verrons que ce sacrifice permet à Dieu d'être juste tout en pardonnant les hommes de leurs péchés. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons que la foi en Jésus-Christ n'est en rien due au mérite et que nous sommes tous mis sur un pied d'égalité. Commençons donc par le début. La justice de Dieu, le péché des hommes et Jésus-Christ. Les mots « juste » et « justice » sont omniprésents dans les versets 21 à 26. Mais maintenant, Dieu a manifesté la justice. Dieu déclare les hommes justes. Ils sont déclarés justes. Dieu montre ainsi qu'il est juste. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste. La justice est un aspect fondamental du caractère de Dieu. Dans l'Ancien Testament, cette justice est un des fils rouges de l'histoire du peuple juif. Tout d'abord, la justice est prise en exemple comme un modèle. Dans les affaires impliquant plusieurs personnes, les textes bibliques sont utilisés pour appliquer le jugement. Vous avez, dans le livre du Deutéronome, la seconde loi, des indications pour savoir comment appliquer la justice de Dieu entre les hommes. Ensuite, cette justice est une valeur reconnue de Dieu. David l'implora lorsqu'il s'agissait de lui venir en aide et de causer du tort à ses ennemis. Et finalement, cette justice, cette loi, pose un très gros problème au peuple. Dieu a donné à son peuple des règles. Ces règles concernant la relation avec Dieu et avec son prochain. Le souci, c'est qu'à cause de la parfaite justice de Dieu, cette loi est impossible à respecter entièrement. La barre est trop haute pour le peuple. Peut-être avez-vous déjà entendu cette expression. Avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Si l'Éternel avait fait sienne cette expression, l'histoire du peuple juif aurait été très différente. Dieu aussi aurait été très différent, car en réalité, la justice de Dieu est si parfaite qu'il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas la désobéissance des hommes. S'il tolérait le péché, même si c'était le plus petit péché, Dieu ne serait plus parfaitement juste. Or, le Seigneur est parfaitement juste. Il est tellement juste qu'il demande aux hommes de respecter une loi impossible à accomplir entièrement. Récemment, la vitesse autorisée sur une route hors agglomération et sans séparation physique de la voie d'en face est limitée à 80 km/h. Vous l'avez tous vu, lu, subi. En théorie, c'est plutôt facile à respecter. Je me cale entre 75 et 80 et je vérifie régulièrement ma vitesse. Les forces de police ne pensent pas que ce sera si simple que ça. Pour le moment, il semblerait que les personnes contrôlées par la police entre 80 et 90 ne donneront aucune contravention. Toutefois, vous aurez le droit de passer un petit moment d'explication et de pédagogie avec les forces de l'ordre. Alors, si vous étiez déjà en retard, voilà. Vis-à-vis de la loi de Dieu, c'est le retrait de permis à 80 km/h. La plus petite désobéissance à la loi de Dieu nous disqualifie d'obtenir le droit d'être en présence de l'Éternel. Alors prenons une autre illustration, j'aime bien les illustrations. Dans certaines entreprises, quand vous postulez à des postes nécessitant un certain niveau d'accréditation, de sécurité, il vous est demandé de fournir un extrait de casier judiciaire à l'entretien d'embauche. Donc, en plus de réussir l'entretien d'embauche et d'être retenu comme le meilleur candidat sur ce poste, l'extrait de casier judiciaire doit être vierge. Votre vie passée ne doit pas avoir laissé de traces d'une quelconque criminalité ou malhonnêteté. Alors évidemment, vous étiez jeune et insouciant quand vous aviez volé le scooter, mais l'entreprise, elle, ne souhaite pas prendre de risques et préférera quelqu'un de plus respectable sur ce poste. Dommage pour vous, vous étiez rangé depuis ce temps. Dieu aussi exige un casier judiciaire vierge pour être en sa présence. L'inconvénient, c'est que tout ce qui n'est pas parfaitement conforme aux règles divines est noté dans ce casier. Le péché, c'est donc ce qui prive les hommes de la possibilité d'être en présence physique de Dieu. La barre est haute pour être déclaré juste par Dieu. En rien, il ne faut avoir désobéi une fois dans sa vie à Dieu et à sa loi. Dans notre texte, la justice est citée à la fois pour parler du caractère de Dieu et à la fois pour parler de l'état de l'homme face à Dieu. Nous avons une mention de cela au verset 26. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. La foi en Jésus-Christ est nécessaire à l'homme afin que Dieu puisse le déclarer juste. Pour cause, Paul nous dit au verset 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Juste après avoir affirmé au verset 22 que Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Je vous propose donc de voir cela dans un deuxième point, ce sera la justice par le sacrifice de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ à la croix, sa mort à notre place est l'application de la justice de Dieu. Parce que cette phrase est la clé de notre étude, je vais le répéter. La mort de Jésus-Christ à la croix, sa mort à notre place est l'application de la justice de Dieu. Si un criminel est envoyé en prison pour purger une peine équivalente au mal qu'il a fait, Dieu impose aux hommes une mort spirituelle comme conséquence de leur péché. Par mort spirituelle, il faut comprendre l'impossibilité de se tenir en présence dès maintenant, mais aussi d'espérer la vie éternelle avec lui. Quand Paul, au verset 25 et 26, dit que Dieu se montre juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois, au temps de sa patience, là, il met en lumière le fait que les hommes ne subissent pas la conséquence de leurs péchés dans le temps présent. Dieu est patient et il offre à chacun la possibilité de revenir à lui. Mais pour cela, il a fallu que quelqu'un purge la peine du juge divin. Jésus-Christ l'a fait. Parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, il a acté la règle suivante. Quiconque croit en lui et au fait qu'il a purgé la peine des hommes par sa mort recevra pour lui la reconnaissance de peine qu'il a payé en mourant. Si je poursuis dans l'idée d'une peine de prison, Jésus-Christ a payé la caution nécessaire pour nous en faire sortir. Alors il y a deux manières de ne pas profiter du don de Dieu, du sacrifice de Jésus et de la rançon payée. La première, c'est de penser qu'il n'y a pas de prison. En effet, si Dieu n'existe pas, la loi de Dieu n'existe pas, les promesses de Dieu n'existent pas, la vie éternelle n'existe pas. Ce monde sans Dieu, c'est l'absence d'espérance. Absence vécue dans l'athéisme, dans l'agnosticisme. La seconde manière de ne pas profiter du sacrifice de Jésus, c'est de déclarer ne pas connaître de prénommé Jésus et de refuser de croire qu'il a payé la rançon en notre nom. Être chrétien, c'est croire que Dieu existe et que Jésus est mort pour payer la caution de nos péchés passés et à venir. C'est avoir une espérance qui va au-delà de ce qui est visible et du temps limité d'une vie terrestre. Ainsi, la justice de Dieu s'est appliquée à la mort de Jésus-Christ pour celles et ceux qui croient qu'il a payé le prix. Désormais, grâce à la mort de Jésus-Christ, Dieu reste juge quand il déclare l'homme pardonné. Le prix des fautes du croyant est payé. Nous avons parlé de justice, de péché et de pardon. Il faut prendre conscience que dans toute l'œuvre du pardon, Dieu est celui qui apporte la solution. Tournons-nous maintenant vers la troisième partie, bénéficiaire du sacrifice par la foi. C'est par la grâce de Dieu et uniquement par la grâce de Dieu que le chrétien est sauvé. Avoir foi en Jésus-Christ, croire à sa mort, nous pardonne de nos péchés, et c'est la seule chose à faire. Avec Jésus-Christ, c'est un don déjà payé. Il n'y a rien à faire de plus, ni œuvre à faire, ni délai à attendre. C'est un don non mérité, car rien de la part des hommes n'a été demandé en plus. Et Paul le dit ainsi. Reste-t-il encore une raison de se vanter ? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe ? Celui de l'obéissance à la loi ? Non, selon le principe de la foi. En effet, ce n'est pas en obéissant au commandement divin que nous sommes pardonnés, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Pouvons-nous nous vanter d'obtenir ce que nous ne méritons pas ? Si au travail, j'obtiens les félicitations de mes supérieurs pour un projet auquel je n'ai pas participé, ne serait-ce pas une injustice pour tous ceux qui ont réellement travaillé sur le projet ? En tant que croyants en Jésus-Christ, à cause du principe de la foi, rien ne nous rend meilleur de celui qui croit. Pardon, de celui qui ne croit pas. Ainsi, je peux voir mon infâme voisin ou mon collègue paresseux et profiteur comme une personne aussi mauvaise que moi. Ou moi comme aussi mauvais que lui. C'est réciproque. Ce que j'ai acquis par grâce, par la foi en Jésus-Christ, il pourrait en profiter tout autant et être pardonné par Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres que nous avons été choisis par Dieu pour proclamer sa gloire et répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous répandons la bonne nouvelle parce que rien chez nous ne méritait d'obtenir le pardon de Dieu. Nous pouvons donc aller vers tous, sans préjuger que notre prochain ne sera pas assez bon pour obtenir le pardon de Dieu. Au début de mon message, j'avais fait une présentation du contexte de la lettre aux Romains. Il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir. Parce que j'avais mentionné que Paul tente par cette lettre de répondre aux tensions entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. Paul affirme que, je cite, « Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs ? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. » Alors, dans notre Église, la tension entre juifs et non-juifs n'est pas d'actualité. Toutefois, j'ai le sentiment que cet avertissement nous met en garde contre la tentation d'être un super serviteur. Ce n'est pas par le nombre de services dans l'Église que je fais, ni par la somme d'argent donnée à l'offrande, que nous sommes justifiés et pardonnés par Dieu. C'est par la foi seule en Jésus-Christ. Cette affirmation nous met en garde d'être orgueilleux de ce que nous faisons dans l'Église. Aucun de nous n'a mérité le pardon. C'est tous ensemble que nous formons son Église, car l'Éternel nous a fait le même cadeau. Toutefois, le Seigneur recherche des serviteurs qui aiment le servir et qui le font pour le glorifier. Donc que notre service soit une occasion pour nous de lui rendre gloire, de le remercier et de faire grandir notre foi. Fort de ce constat d'égalité face à la justice de Dieu, nous sommes encourager à ne pas voir de petits et de grands péchés, à ne pas penser être meilleur qu'un frère ou qu'une sœur luttant pour un péché qui est visible par tous. Par la foi, nous avons reçu le même pardon et nous pouvons nous encourager à progresser ensemble vers une vie qui témoigne du pardon reçu. C'est notamment ce que nous voulons vivre dans nos groupes de maison. Pour conclure, que penser du don gratuit de Jésus-Christ ? Félicitations, vous avez gagné le pardon et la vie éternelle. Le plan de Dieu est d'une efficacité surprenante. La gratuité de la justification par la foi seule est le moyen utilisé par Dieu pour répondre à la fois à son désir de justice et à la fois au péché de l'homme. Là où les œuvres des hommes n'ont fait que montrer l'incapacité de l'homme à rester sans péché, le sacrifice de Jésus a fait le nécessaire pour renouer la relation entre Dieu et les hommes. Seule demande, croire et accepter pour soi-même le sacrifice de Jésus. Dans un monde où tout a un prix, l'Éternel donne gratuitement. Nous sommes sauvés par la foi seule et aucune œuvre, aucun acte de notre part ne peut venir compléter le sacrifice de Jésus-Christ. Tout est déjà donné. Cette gratuité nous met sur un pied d'égalité. Nous sommes tous des pécheurs pouvant accéder au pardon de Dieu. De fait, l'Éternel nous encourage à ne pas penser que nous sommes meilleurs que notre prochain. L'apôtre Jean le résuma ainsi. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Amen.